Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. Le message est déjà dit, mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre appui suprême, votre seul ami, vice-versa. Ce matin, j'aimerais parler de situation de crise, situation avec un S. Tout le monde entend ? Non, c'est pas assez. Ça va mieux comme ça. Voilà. Bon, faut se manifester. Situation de crise. Mais d'abord, nous allons prier. Père, toi, tu passes dans nos rangs par ton Esprit Saint. Tu sais comment chacun est venu, avec ses joies, ses peines, ses fardeaux, ses douleurs physiques. Et nous te demandons que cette paix que nous avons invoquée par ce chant soit sur chacun. Que ton esprit puisse apaiser les cœurs, réconforter et nous instruire tous. Amen. Alors j'ai pris plusieurs passages, plusieurs anecdotes de situations de crise. Il y a récemment un orateur qui nous a parlé de l'analphabétisme du évangélique, du monde évangélique, que nous ne connaissons plus assez la parole. Et j'aimerais bien vous mettre un peu l'eau à la bouche pour repasser ces passages. Pourquoi une vie si dure ? Un chemin si compliqué ? Des attentes non exaucées ? N'y a-t-il pas d'issue, parfois, dans nos vies ? C'est tellement, tellement compliqué. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un passage dans, d'abord, Nombre 11, versets 4 à 9. C'est la situation. Après le passage de la mer Rouge, Israël est entré dans le désert de Sin et Dieu a instauré la manne. De la manne, une dose par personne par jour et une double dose le vendredi, la veille du sabbat. Comme ça, chaque jour, juste ce qu'il faut, pas de récolte le sabbat, et jour après jour, pas de stock conservable, dépendre de l'Éternel. Fidèlement, Dieu envoie la manne. La manne, c'est vivre par la grâce. À Paul, le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Donc, les Israélites n'étaient pas d'accord. Beaucoup râlaient, et c'est très peu après la sortie d'Égypte. Et puis, on veut de la viande. C'est quoi ce truc-là, cette manne ? Elle nourrissait bien. Tout était dedans. Mais on veut de la viande. Nous voulons de la viande. Nous voulons. Je veux. Ça, c'est souvent déjà l'origine de crise. Et il se rappelle déjà le bon vieux temps en Égypte. Ah, c'était parfait. Juste pour nous rappeler, dans Exode 2, le verset 23-25, il est dit « Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. » Ça, c'est quand ils étaient en Égypte. Des cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarde les enfants d'Israël et en eut compassion. C'est un moment où il n'y a pas encore d'alliance entre Dieu et Israël. Ce peuple a vécu 430 ans en Égypte et le peu qui pouvaient leur être transmis. Il n'y avait pas d'écrit. Ça a dû se disperser dans le désert égyptien. Et donc c'est Dieu qui a pris l'initiative de les sortir de leur misère. Là, on a ce gémissement. Et dans Nombre, ils disent « Ah, c'était quand même bien en Égypte. Hein? On avait à manger. » Bon, en tant qu'esclave, tout était parfait. On prenait du fouet. Les fils qui venaient au monde devaient être tués. C'était le beau temps, quoi. On dirait, d'après la réaction là, ben, c'était quand même mieux là-bas. Dépendre de la main de Dieu jour après jour, je veux plus que ça. C'est l'humain, je veux de la viande. Et Moïse vient avec cette requête devant Dieu et Dieu dit, ben, ils auront de la viande. Ils en auront, jusqu'à ce que ça leur sorte par les narines. Pas un jour, pas deux jours, ils voulaient une fois un bon menu, pendant un mois. Alors, imaginez, le vent souffle et des cailles arrivent. Alors, les mensurations, d'après la Bible, il y a eu un mètre de cailles autour du camp, à un jour de marche. Tout autour, un cercle, un mètre de caille. C'est la Bible qui le dit. Deux coudées, la coudée en général, c'est à peu près 50 cm. Vous vous rendez compte? Imaginez la scène. Et là, près de 2 millions de personnes, ils étaient 600 000 hommes, plus les familles. Ils avaient beaucoup d'enfants. Ceux qui pouvaient aider, donc je dis, 2 millions de personnes qui ramassent, préparent, plument vides et sèchent des cailles pendant 36 heures. Ça devait être fantastique. Le festin peut commencer. Et après, la lassitude s'installe aussi. Tout n'est pas encore consommé. Un mois après, ils en ont encore en bouche, entre les dents, comme Dieu le dit. Probablement, ils n'ont pas montré beaucoup de gratitude. La colère de Dieu s'enflamme contre le peuple. Une grande plaie au verset 33 du chapitre 11. Il est question de grandes plaies. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On appela ce lieu, je le traduis en français, le cimetière de la convoitise. J'ai lu, je ne connaissais pas le nom, alors j'ai regardé dans la Bible allemande. Et là, il est marqué ben, que c'est le cimetière de la convoitise. Ils convoitaient. C'était leur punition parce qu'ils ne se confiaient pas en Dieu. Et je voudrais juste dire, quand Moïse a dit « Mais comment on pourrait faire pour leur donner de la viande ?» Le Seigneur a dit « La main de l'Éternel serait-elle trop courte ?» pour faire cela. Et c'est un passage qui revient plusieurs fois. Il y a une crise et le Seigneur intervient. Même contre sa volonté, ce n'était pas sa volonté de les submerger par des cailles, mais le Seigneur intervient. Sa main n'est pas trop courte, même pour faire des miracles parfois dont il n'aurait pas besoin. Beaucoup avait affirmé préférer l'esclavage à l'Égypte plutôt que la dépendance des soins de l'Éternel. Et beaucoup de nos contemporains, parfois nous avons aussi cette attitude, nous préférons ce que nous donne le monde, ces convoitises-là, plutôt que la sobriété que Dieu voudrait pour nous. Parce que cette sobriété, elle nous rapproche de lui. Quand nous sommes submergés de richesses, cela nous éloigne. Ça, c'est pour l'histoire des cailles. Rappelez-vous, en partant, ils appellent ce lieu cimetière de la convoitise. Donc, c'était une crise de convoitise pour Israël. Mais la main de Dieu est puissante. Ça, on peut le relever. Deuxième crise,
c'est une crise morale. Ça, c'est du temps d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe exprime le constat, le bilan de la relation entre Dieu et le peuple. Le peuple a délaissé le chemin de la bénédiction pour se tourner vers des idoles. Ça, c'est toute l'histoire des rois. Et là, on est en Juda. Il est question de Juda. Israël est déjà déporté. Ils se sont tournés vers les idoles des peuples voisins, imitaient le style de vie médiocre avec toutes les sortes de pratiques interdites par le Seigneur. Culte aux astres, à Baal, les Astartés, les hauts dieux, et on allait parfois jusqu'à sacrifier des enfants. Et puis on s'étonne que rien ne va plus. Ésaïe 50, versets 1 à 3, le Seigneur demande, parce que le peuple lui dit, mais pourquoi Dieu n'intervient pas, pourquoi il y a une telle misère ? Ainsi parle l'Éternel, Ésaïe 50, 1 à 3. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère ? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu ? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendu. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu ? Ma main est-elle trop courte pour acheter ? N'ai-je pas assez de force pour délivrer ? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. La puissance de Dieu, et ce n'est pas Dieu qui a rejeté Israël, c'est Israël qui a rejeté Dieu. Certains ont certainement dit, il avait des dettes, il nous a vendus, vous savez, comme cette veuve qui avait deux garçons et qui avait des dettes, et le créancier, il dit, tu me donnes tes garçons. Et donc, c'est pas comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Lui, il est riche, il n'a pas besoin de vendre des âmes comme le ferait Satan. Pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu ? Ma main est-elle trop courte pour racheter ? C'est un appel à chacun. Aussi pour nous, la main du Seigneur n'est pas trop courte. C'est vous les infidèles, les adultères, vous vous êtes vendus vous-même. Moi, je n'ai pas de dette qui m'aurait obligé de vous vendre. Personne n'a répondu à mon appel alors que je suis le Tout-Puissant. Reconnaissez que toute la création m'est soumise. Et pour Israël, c'était important. Aujourd'hui encore, le passage de la mer Rouge, c'est le summum de l'histoire d'Israël. La sortie d'Égypte quand cette mer s'est ouverte et qu'ils ont été libérés et que l'ennemi a été noyé. Pour Israël, vous en parlez, leur cœur chante parce que ça, c'est l'histoire, la Pâque et le passage de la mer Rouge. Et Dieu le leur rappelle. La démonstration, cette démonstration par excellence de la puissance du salut pour Israël. Au verset 10 du même chapitre, le retour est encore possible. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Quelle incitation, hein ? Au milieu de tout ce chaos, Dieu dit, celui qui craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Et Dieu lui redonne de la lumière. Ceux qui veulent quitter le monde des ténèbres ont un retour possible. J'ai les moyens sûrs, on passe à Ésaïe 59, j'ai les moyens sûrs pour sauver. Ma main n'est pas trop courte pour sauver, une fois de plus. C'est vos crimes qui élèvent un mur entre vous et Dieu. Vous ne pouvez le voir, vous ne pouvez voir Dieu, le reconnaître à cause de vos péchés. Et dans Ésaïe 59, les versets 1 à 8, c'est un réquisitoire, c'est comme un jugement, hein, un tribunal. Et il y a le réquisitoire terrible contre le peuple d'Israël. Et Dieu compte, on ne va pas le lire, Dieu compte tous les griefs qu'il a relevés. Par contre, des versets 9 à 15, on va lire, là c'est Israël qui passe aux aveux. Hein. Avant la condamnation, il y a le réquisitoire et on donne la parole aux accusés. Et j'aimerais juste lire ce passage. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Ils n'ont pas confiance. Hein. Le réquisitoire est tellement dur. Le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher, la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. En plus, s'il y en a un qui cherche à quitter le navire, on le retient, on ne le laisse pas aller à la lumière. Quels aveux, c'est notre péché, c'est nous qui sommes, et nous grondons, nous gémissons, et ils ont un pied dans la tombe. Un aveu de vie de ténèbres, de besoin de secours, une vie dont la seule issue est la mort. Ils se disent coupables, infidèles, abandonnés de Dieu, violents, révoltés, mensongers. Et ils ne croient pas à une délivrance. Point de salut, la vérité a disparu, et personne qui n'intercède. Le Dieu d'amour ne va pas laisser le chef-d'œuvre de la création, l'homme fait à son image, se détruire lui-même et détruire ses contemporains. Parmi les Israélites, pas de sauveur au verset 16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. C'est quoi intercéder ? Dans la Bible, l'intercesseur par excellence, c'était qui ? C'était Moïse dans l'Ancien Testament. Chaque fois que Dieu voulait punir le peuple, qui méritait la punition, Moïse, il se mettrait entre le peuple et Dieu. Il allait dans l'intervalle, il intercédait. Quelqu'un qui s'interpose pour dire « Écoute Seigneur, fais encore grâce ». Quelqu'un qui plaide pour les coupables, quand nous prions, est-ce notre attitude quand nous prions pour les autres ? Sommes-nous des intercesseurs qui nous plaçons entre Dieu et celui dont nous portons le fardeau pour dire « Seigneur, fais grâce ». Même parfois celui qui nous opprime, « Seigneur, fais grâce ». Quelqu'un qui s'identifie, un intercesseur, c'est quelqu'un qui s'identifie à ses contemporains. Il n'est pas là pour juger, ça c'est l'affaire de Dieu. Le Seigneur dit, mais je n'en ai pas trouvé. Il n'y a pas d'intercesseur, qu'est-ce qui se passe ? Et là, ce n'est pas la main. Au verset 16 bis, ce n'est pas sa main, c'est son bras qui lui vient en aide. Alors son bras lui vient en aide, sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendrait la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le Seigneur ne tolérera pas que ceux qui veulent revenir à lui soient repris par l'ennemi. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Un Rédempteur. Vous connaissez la définition du Rédempteur ? C'est celui qui paye la rançon. Hein ? C'est celui qui, quand nous sommes pris en otage, paye la rançon et dit « Il m'appartient ». Celui à qui il devait, c'est réglé. Ça, c'est le Rédempteur, et c'est Dieu qui le suscite. Et notre Rédempteur par excellence, c'est Christ. Mais il faut, comme le dit la deuxième partie, le Rédempteur viendra pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Il faut passer par là, reconnaître sa perdition, reconnaître, nommer le péché et le déposer au Seigneur. Donc nous avons ici une crise en Israël, une crise morale. Nous allons encore voir une autre crise qui concerne Israël, mais aussi un personnage dans Daniel. C'est une crise de désespoir pour Israël. La main de Dieu, non, la maison de Dieu est réduite en cendres, ainsi que toutes les maisons de quelque importance. Ça, vous pouvez le relire, je ne citerai pas, cherchez-le. Les objets sacrés sont emmenés à Babylone et le peuple est déporté loin de son pays. C'est vraiment le désespoir. Et en plus, celui qui les a vaincus, ce n'est pas un tendre. Nebuchadnezzar, ce n'est pas quelqu'un de gentil. Il règne en maître intransigeant sur une grande partie du monde de l'époque, et sa puissance lui monte à la tête. Le livre de Daniel nous décrit, le début du livre de Daniel nous décrit ses frasques pour régner. Il a des songes, il en demande l'explication sans même relever ou révéler le contenu de ses songes. Il a une équipe de spécialistes qui sont certainement payés pour ce service. Magiciens, astrologues, enchanteurs, diseurs de bonne aventure, tout ce beau monde est perplexe. J'ai rêvé, dites-moi ce que j'ai rêvé et ce que ça veut dire. C'est simple. Dis-nous le songe et nous t'en donnons l'explication. Chapitre 2 de Daniel, les versets 5 et 6. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. » Le deal est bon. Hein. Dites-moi, et vous avez la vie sauve, vous serez riche. Si vous ne me le dites pas, et ça c'est purement le dictateur, vous serez tous massacrés et vos maisons, elles seront aplaties, hein, il ne restera rien. C'est vraiment costaud. Il demande l'impossible et il s'irrite, se met en colère et ordonne le massacre de tous les sages de Babylone. Et on publie, comme pour la bonne forme, on publie la sentence, comme il se doit, et on ramasse pêle-mêle tous ceux qui avaient de la sagesse ou qui affirmaient en avoir, parce qu'il y en avait certainement. qui se faisaient bien payer et qui étaient des charlatans. Daniel, rempli de l'Esprit de Dieu, peut révéler l'inexplicable. Au verset 46, 47, alors le roi, il peut le révéler, et donc, en conséquence, le roi Nebuchadnezzar tombe sur sa face, se prosterne devant Daniel, et il ordonne qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Tout à coup, il remarque qu'il y a plus grand que lui. « Votre Dieu, ton Dieu Daniel, il est bien au-delà de tout le reste. » Certainement, il a compris la leçon. Au chapitre suivant, l'orgueil du roi le pousse à créer une idole. Une petite statuette, elle fait 30 mètres de haut, elle est en or. Donc, voilà. Et voici ce qu'on vous ordonne à tous, peuples, nations, hommes de toute langue. Au moment où l'orchestre joue, vous allez vous prosterner et vous adorerez la statue sous peine d'être brûlé vif. C'est encore du Nebuchadnezzar. Les amis de Daniel, ayant refusé d'adorer cette idole, le roi est rempli de fureur, c'est les termes qui sont utilisés. Il fait chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. C'est encore la démesure. Ça aurait bien suffi pour griller quelqu'un, mais non, 7 fois plus. Et dans sa fureur excessive, son esprit de vengeance, il sacrifie même les bourreaux, parce que ceux qui exécutent la sentence sont brûlés. En approchant de l'entrée de la fournaise, ils sont tous tués, tellement c'est chaud. Il n'en a rien à faire. C'est lui le chef et les amis tombent dans le feu. Stupéfait, il voit les 3 amis, ainsi qu'un ange de Dieu, marcher librement dans le feu. Les versets 27 à 29. 2 fois, il a vu la puissance de Dieu, il a donné gloire à Dieu. Au chapitre 4, bien que prévenu par l'explication d'un nouveau songe par Daniel, son orgueil se manifeste à nouveau. Au chapitre 4, le verset 30, il est dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie par la gloire de ma magnificence ?» Je suis magnifique, je suis Superman. C'est une crise de folie qui le prend, ici. Le roi tout-puissant, avide de sang, de destruction, est banni du milieu des hommes et mange de l'herbe. Ça change, Et pendant 7 ans, personne pour le soigner. Il est dehors, ses cheveux poussent jusqu'au sol, il a des ongles, il est dit, comme les oiseaux ont des griffes. Il est vraiment dégradé à fond. La voix et la main de Dieu sont plus puissantes que le royaume le plus fort de la terre. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Parce qu'Israël avait à craindre avec un gars comme Nebuchadnezzar. Mais là, cette fois-ci, il a compris. Certainement, sa gouvernance fut changée et le peuple put vivre plus sereinement. Quand tu passes 7 années et après, la grâce, c'est qu'il est retrouvé. Sa raison. Certainement, le peuple pouvait vivre plus sereinement avec un roi qui a passé une expérience pareille. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et puis, j'aimerais quand même passer encore un petit moment dans le Nouveau Testament. Dans les Actes. Et c'est la première crise majeure pour l'Église. L'Église naissante commence à se développer. Étienne, le diacre, est lapidé suite à son témoignage percutant dans Acte 8. Saul de Tarse se tient encore en retrait, mais il est bien présent. Acte 7, 58, il garde les vêtements de ceux qui exécutent Paul. Il est là. Et il nous est dit, il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul, ce n'est pas n'importe qui. Il apprend vite. Il a des droits, il est citoyen romain, juif, mais citoyen romain, ça on l'apprendra plus tard. Ce n'est pas n'importe qui. Il est disciple de Gamaliel, c'était la sommité théologique de l'époque. Donc, il avait des connaissances incroyables. Un parcours prometteur, zélé, purificateur d'Israël par la force, et il demande les pleins pouvoirs. Il respire le meurtre, nous est dit dans Acte 9. Paul respirait le meurtre. L'Église peut s'inquiéter pour son avenir face à un tel personnage. Qui pourrait l'arrêter? Ce Saul. Verset chapitre 9, 3 à 6. Qui pourrait l'arrêter? Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Saul, le soldat de Dieu, c'est pour ça qu'il se prenait, est jeté à terre. Tremblant et saisi d'effroi, il demande quoi faire. Lui qui voyait un chemin tout droit, tout tracé comme chef religieux, ne voit plus rien. Il voulait ramener lié ses victimes. On le prend par la main et on le conduit à Damas. Il ne pouvait même plus marcher tout seul. Lui qui voulait lier tout le monde et épurer Israël. 3 jours de ténèbres pour Saul. Pour un visionnaire comme lui, 3 jours dans les ténèbres, quelle situation. J'imagine que son esprit devait être en ébullition. Et c'est Jésus qui lui a parlé. Et il n'avait pas de doute là-dessus. Il a juste dit, que veux-tu ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Sa vie est bouleversée de fond en comble. Et c'est l'une de ses proies potentielles qui doit lui ouvrir les yeux. Ananias, va dans la rue là-bas. Et il y a un certain Paul qui ne voit plus. Il t'attend. Le Seigneur a renversé l'orgueil de Saul pour en faire un serviteur de choix pour bâtir l'Église. En quelques jours, celui qui était la menace pour l'Église a été transformé en instrument de salut. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Il y aura toujours des crises dans nos vies. Et peut-être vous vous êtes reconnus dans l'une ou l'autre de ces crises, mais notre Seigneur est puissant et ses plans de salut s'accomplissent. Nous avons entendu dimanche dernier Léopold qui nous parlait des promesses que le Seigneur avait données et qui se réalisaient. Le Seigneur est tout-puissant et il est notre ami. N'oublions jamais qu'il est de notre côté. Amen. Père, tu es vraiment le maître de l'univers. Nous sommes si petits et que ce soit notre orgueil qui nous empêche parfois de voir ta grâce. Et les conditions dans lesquelles nous vivons, Seigneur, nous pouvons crier à toi et tu as une solution. Nous pouvons aussi intercéder pour nos chers et nous te demandons, Seigneur, que nous soyons encore bénis et que nous soyons bénédiction autour de nous tant qu'il fait jour. Amen.